Une communauté, dès qu'on forme un corps, elle joue un rôle maternel. Alors, la mère, ben, elle enfante, hein. Alors, quelque part, vous ne vous rendez peut-être pas compte, moi je m'en rends compte en tout cas. Si vous étiez à ma place, vous le verriez, c'est presque physique, hein. Ça se voit presque physiquement. C'est que vous enfantez ce qui sort. Il y a une espèce de matrice, et puis il y a quelque chose qui sort. Tous les prédicateurs le disent. Ça, je me rappelle quand j'avais des prédications, il faut les arrêter. Souvent, les prédicateurs disaient ça, vous savez. Moi, c'est le cœur de ceux qui vivent en présence de Dieu, qui ont soif de connaître la parole de Dieu et qui sont tous d'accord qu'il faut vivre de la grâce de Jésus dans l'Église, à l'intérieur même de la grâce de l'infaillibilité, la recherche donc d'infaillibilité doctrinale, et puis qui aiment vivre donc et du Christ et de la grâce et de la doctrine. Vous voyez les trois blancheurs. Alors à ce moment-là, il y a ce phénomène, quand il y a une prédication. Il y a un phénomène de corps mystique qui se produit, et puis le prédicateur eh ben, manifeste à l'extérieur ce que l'ensemble de la communauté qui est là engendre à travers lui. C'est extraordinaire comme expérience, c'est curieux parce que il y a des choses, et vous le savez bien, je crois, que je ne peux dire qu'ici. Cet esprit ne permet qu'il se dise qu'ici. C'est pas du tout que vous êtes géniaux ou que. Non, non, non. C'est parce qu'il y a. Il y a une. C'est incroyable, cette espèce de. Et du reste, quelque part, vous devez le sentir. Tiens, c'est. Alors je ne résiste pas. Vous avez des questions à poser par rapport à qu'est-ce que. Si vous avez des précisions, des questions à poser là, sur ce que nous avons vu, il ne faut pas hésiter. Quand vous assistez à une messe, vous savez que simplement à travers le prêtre, c'est cette apparition qui vous est donnée. Deux doigts qui pressent le cœur de Jésus brûlant de gloire. Et il sort du cou Jésus qui se donne à vous. Avec un empressement d'amour indescriptible. Ouais, c'est ça, un sacrement. Un sacrement, c'est Jésus qui presse. C'est issu, c'est originé dans ce qu'il y a de plus amoureux, surnaturellement, dans le cœur ressuscité de Jésus. C'est la charité de Jésus qui a fabriqué les sacrements. Et ça sort le cœur, quand on vous dit, quand vous voyez le cœur sacré de Jésus, quand on dit le cœur sacré de Jésus, qu'est-ce que c'est que le cœur sacré de Jésus? C'est une petite chose, si vous faites un jour, vous faites du catéchisme, hein, vos petits-enfants, il faut avoir ces petits schèmes-là. Le cœur sacré de Jésus. Le Verbe de Dieu, donc Dieu, incarné, ça c'est éternel, incarné, c'est Jésus. La grâce de Dieu. En personne, incarné, c'est l'Immaculée Conception. L'amour glorieux, éternel, incréé, surnaturel de Dieu. Incarné, c'est le cœur sacré de Jésus. Un petit schéma très très facile à se rappeler. c'est la charité, l'amour surnaturel, divin, éternel. C'est du amour incarné, c'est le cœur sacré de Jésus. La charité incarnée, c'est le cœur de Jésus. Et à partir de ce cœur, il y a une plaie dans ce cœur, et c'est des torrents de feu, de gloire, de cette lumière vive, flamme d'amour. Et à partir de cette vive flamme d'amour, matière première, Dieu, ses deux doigts, les deux doigts du sacerdoce, fabriquent. La Jérusalem céleste, le corps mystique de Jésus. Et le premier corps mystique de Jésus, c'est ce petit rond, c'est Jésus qui donne, c'est Jésus qui donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, toute sa lumière, tout son amour, toutes ses profondeurs, toute sa tendresse, toute sa délicatesse. Les sacrements viennent tous du cœur de Jésus blessé. Il en exprime un fruit. Ce fruit, c'est le sacrement. Et ces sacrements eux-mêmes vont avoir un fruit, c'est le corps mystique de Jésus, la Jérusalem céleste. Oui. Bon, ça va. Comprendre au fond les sacrements, je crois que c'est bien de voir, bien sûr, la structure, on regarde la source de l'amour de Jésus, c'est le cœur de Jésus. Donc c'est la charité, l'amour éternel incarné. C'est ça, c'est le cœur de Jésus. Dans l'Apocalypse, on appelle ça l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est le symbole de la blessure du cœur de Jésus, c'est-à-dire de la porte à travers laquelle Jésus donne, se donne, dans une lumière de gloire, mais dans le temps, pour constituer la semence de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem d'en haut. Et le fruit final, le fruit au ciel de ce sacrement, vous voyez bien que la source des sept sacrements est une, et puis le corpus mysticus glorieux, n'est-ce pas, il est un aussi, c'est la Jérusalem céleste. Alors, bon, je crois que c'est bien quand même de s'obliger à chaque fois, dimanche, à lire un passage dans la Bible, hein, et puis, puisqu'on est dans le symbole, on va aller jusqu'au bout, et on va lire le fameux passage dans l'Apocalypse de la Jérusalem céleste. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Mais avant, je vais lire le chapitre 19, verset 11. Alors je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. Alors je vis le ciel ouvert. Le ciel, c'est le monde spirituel tout entier. Le monde spirituel, tout le monde de la contemplation, l'univers, tous les trésors de la contemplation, qui nous sont quelque part fermés, partiellement ouverts par le Christ, par les prophètes, par l'Écriture, et tout le trésor de la contemplation, tout le domaine spirituel, d'un seul coup, Jean voit tout ça qui s'ouvre. Et voici la révélation. Il voit ce trésor de la vie contemplative qui ouvre leur secret. Il est étonné, il dit, voici, parce que vous voyez dans l'Apocalypse, voici, ça veut dire, regarde là.
Ils passent de l'extase au ravissement, au vol de l'esprit. Tout le temps dans l'Apocalypse, on voit ça. Voici un cheval blanc. Un cheval blanc. Et celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est le seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé dans le sang. Et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. Les trésors du ciel, donc les trésors de l'amour contemplatif, incré, divin, surnaturel, s'ouvrent. C'est une image du Sacré-Cœur, là, ici, qui est géniale. Qui s'ouvre. Et ça y est, qu'est-ce que tu vois? Regarde, un cheval blanc. Le cheval blanc, c'est la grâce, capitale du Christ. C'est toute la gloire. Qui actue le diaphane de notre Sainte Trinité, rassemblée dans le Messie de gloire. Le cheval blanc, ça représente la grâce. Mais toute la gloire qui actue le diaphane intime de notre Sainte Trinité se rassemble dans la grâce capitale de Christ. C'est ça le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est la grâce incrée du Christ, source de toutes les grâces. Et conjoint à la gloire qui actue le diaphane intime de notre Sainte Trinité, ce que nous avons vu hier. Était là. Et celui qui est dessus, il porte un nom, et qui est le seul à connaître. C'est extraordinaire, ce manteau blanc, trempé dans le sang, et son nom sur son épaule, le Verbe de Dieu. C'est génial. Les armées du ciel le suivaient. Donc les multitudes de ceux qui vivent sur le plan spirituel, qui vivent de l'amour spirituel, qui vivent d'un amour vrai parce qu'il est contemplatif, et qui va jusqu'à la racine de l'éternité et de la gloire de Dieu, eh bien, le suivent sur des chevaux blancs, vous voyez. C'est par la grâce. C'est par la grâce qu'on peut suivre le Christ. Vêtu de lin d'une blancheur parfaite. Présente toujours le lin d'une blancheur parfaite, ça présente la victoire de la résurrection, mais à travers un vêtement. C'est les docteurs de l'Église, c'est-à-dire les pères de l'Église, qui disent que Jésus, enfin ça vient de Jésus ça, que à chaque fois que vous avez un vêtement dans la Bible, ça représente les sacrements. Vous le savez, ça, pourquoi je pense, vous voyez, parce que quand je vous prenez au catéchisme, je vous expliquais ça aux enfants. Vous faites venir un petit enfant, surtout si c'est l'hiver, il a un bel anorak, vous le prenez par les bras, et il dit, tu vois, est-ce que je te touche là? Vous prenez bien par les bras, vous serrez bien. Il dit, bah oui, tu me touches. Petit ange, j'ai touché seulement ton manteau. Et puis vous faites une caresse, là, sur la joue. Il dit, est-ce que je te touche? Il dit, oui, ça c'est vrai, ça je t'ai touché. Mais quand tu touches quelqu'un à travers son vêtement, tu ne le touches pas lui, tu touches le vêtement. Vous vous rappelez quand Jésus dit « Qui m'a touché ?» Mais elle dit « j'ai touché son vêtement. » L'hémorroïde, c'est ça. Mais pourtant, à chaque fois que vous touchez le vêtement, les sacrements, vous touchez bien le Christ. Mais vous le touchez à travers le vêtement. C'est ça les sacrements. Le vêtement, ça représente toujours les sacrements. Et comme il s'agit du lin, d'un manteau de lin blanc, ça représente à la fois le sacerdoce royal, la victoire de la résurrection sous le mode sacramentel, donc c'est le sacerdoce royal du baptême, mais aussi le sacerdoce sacramentel et royal du sacrement de l'ordre. Donc là, ici, vous avez, au fond, un petit jeu extra entre deux sacrements, là, qui sont beaux, symboliquement, n'est-ce pas ? De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui émènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui coule dans la coule le vin de l'ardente colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est une colère d'amour, d'un secret de charité qui a révélé l'amour de Dieu est furieux. Il veut supprimer tout ce qui n'est pas amour et remplacera tout ce qui n'est pas amour par de l'amour pur. C'est ça, la colère de Dieu. C'est une chouette punition. J'aime cette punition-là. Cette punition géniale. C'est pour ça que nous, si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à aimer, si on est agressif, on s'en fout, on fait ce qu'on peut, c'est tout. Et on sait tout le reste à transformer la colère de Dieu par du pur amour. Et c'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent à travers le ciel, « Venez !» Ralliez le grand festin de Dieu, vous y avalerez chair de roi et chair de grand capitaine, et chair de héros, et chair de chevaux, avec leurs cavaliers, chair de tous gens libres et esclaves, petits et grands. Je vis alors la bête, avec les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour engager le combat contre le cavalier et son armée. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous deux vivants dans les temps de feu, de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier. C'est extraordinaire, ça, comme révélation. Et il y en a deux qui sont envoyés dans... C'est la bête, Satan, et tout le corpus mysticus de Satan, et puis l'Antichrist, et tous les autres. Tout le reste est exterminé par l'épée du cavalier, qui remplace tout ce qu'ils n'ont pas fait par de l'amour pur. Donc ils sont tous sauvés, tous les autres. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Je vous signale une chose, c'est qu'on n'a pas le droit de dire que l'enfer n'existe pas. Quelqu'un qui dit l'enfer n'existe pas, mais il n'y aura personne dedans, celui-là n'a plus la foi chrétienne. Il est éternel l'enfer. Et il y aura des êtres dedans, d'accord ? Pas parce que Dieu les a mis, c'est parce qu'ils ne veulent pas, ils n'en veulent pas, à jamais, et même devant l'amour pur de Dieu, ils résisteront de toute leur force pour ne jamais vivre cet amour de Dieu, quoi qu'il arrive. Pleine liberté, ils choisissent eux-mêmes l'enfer. Nul ne va en enfer qu'il ne choisit lui-même. Et il y en aura. Donc il y a deux corpus mysticus, se lient volontairement, lucidement, jusqu'au bout, en ce temps, et aussi dans les frontières de l'éternité, en pleine liberté avec Satan, donc c'est tous les deux ans. Et puis, ceux qui sont un avec l'Antichrist, mais un totalement. J'espère qu'il n'y en aura qu'un qui sera un avec l'Antichrist et l'Antichrist lui-même. Je l'espère. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. Alors, si vous voulez bien, puis verset 11 du chapitre 20. Puis je vis un trône blanc très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face, sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre livre, celui de la vie, Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. La mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient. Et chacun fut discerné selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, cet étang de feu. Et celui qui ne se trouva pas inscrit sur le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu. Jean-Christ. Et voilà apparaît la Jérusalem céleste. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose. Vous avez l'apparition du Sacré-Cœur. À partir de là, un grand combat que j'ai sauté avec le règne des mille années, qui représente le mystère de l'Immaculée Conception. Le mille années, c'est représente l'Immaculée Conception, qui enveloppe pour le manifester, pour le donner, pour nous l'apporter, tout ce qui sort du cœur de Jésus, de la charité ardente, du cœur ressuscité du Christ. Et du coup, il en sort éternellement au-delà de ce moment où disparaît devant la face du Père le ciel et la terre, puisque devant sa face, ils fuirent sans laisser de traces, donc l'espace et le temps disparaissent. Donc après la disparition de tout le monde spatio-temporel, devant la face du Père, apparaît la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, c'est le visage du corps mystique glorieux. Qui s'épanouit dans le fruit absolument parfait de tous les sacrements. C'est pour ça que je voulais vous le dire. Chapitre 21. Je vis un ciel nouveau. Vision béatifique. Et une terre nouvelle. Nous sommes tous réussis. Le premier ciel, donc la première contemplation, avec toutes les grâces, les apparitions, les révélations, les glorifications, qui sont dans le temps, en effet, et la première terre ont disparu. Et de mer, il n'y en a plus. Le mer, c'est le monde, la mer, c'est le monde des idées. Plus personne n'a d'opinion, des idées, les idéologies disparues. Le monde de la mer a disparu. Le monde flottant, la mer, vous voyez, vous prenez l'eau, c'est comme le temps, ça vous échappe. La mer, il n'y en a plus. On est sur le roc de la résurrection, de la vie éternelle. Alors je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée paraît pour son époux. Le Verbe de Dieu s'est effacé dans un corps humain, s'est anéanti dans une ténèbre, dans la crucifixion. Et après la résurrection, vous croyez qu'il se glorifie lui-même ? Pas du tout. Il s'anéantit, il se cache encore plus dans les sacrements. Et après la glorification de tout, vous croyez qu'il se magnifie encore ? Pas du tout, il se cache encore plus sous le visage de la cité sainte, la Jérusalem céleste, son corps mystique de gloire, qui est animé par une seule personne, le Verbe de Dieu, l'épouse du Père. L'épouse du Père, c'est le Verbe de Dieu. C'est pas vous sentir ça, qu'il y a trois anéantissements successifs de l'épouse. Le Père, c'est l'épouse. Le Verbe de Dieu, c'est l'épouse. La première personne de la Très Sainte Trinité, c'est l'épouse. C'est le Père. Et la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, c'est l'épouse. Vous savez ça. Eh bien, le Verbe de Dieu s'anéantit, se cache sous le visage du Messie. Le Messie se cache dans le mystère du sépulcre et de la résurrection. À la résurrection, il se cache encore plus sous le mystère des sacrements. Son corps divin, mystique en Jésus, se cache derrière le corps mystique de l'Eucharistie, le l'Eucharistie, c'est le corps mystique de Jésus. C'est le corps divin de Jésus. C'est le cœur, c'est l'amour. Et tous ces sacrements sont donnés dans nos corps, dans nos chairs. C'est pour ça qu'on dévore les chairs des capitaines, les chairs des grands, les chairs des petits, les chairs de tous, les chairs des esclaves. Tout ça dévore. Il se cache grâce aux sacrements, encore plus à travers ceux qui vivent des sacrements. Et tout ça, ça finit par former un seul corps, une seule splendeur. Et cette splendeur, c'est la Jérusalem céleste. Ah, et bien, il y a une seule vie, une seule personne, cette Jérusalem céleste, c'est-à-dire nous qui en sommes partis, nous subsistons mystiquement dans le verbe de Dieu, qui l'épouse, et donc éternellement, dans la vision béatifique, quelque part, le verbe de Dieu se cache derrière la cité sainte. Devant le Père, l'époux, elle s'est faite belle, comme une jeune mariée paraît pour son époux. J'entendis alors une voix. Ah, voilà l'Esprit Saint. C'est vraiment extraordinaire. J'entendis alors une voix, la voix, c'est la présence d'amour, c'est l'Esprit Saint, clamer du trône. Le trône, c'est le Père. Le Père, c'est sur le trône qu'est le principe pour Dieu, la très sainte Trinité. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici que je fais l'univers nouveau. Donc après la résurrection finale, il y a la présentation de tous les saints dans la vision béatifique, animés tous par la lumière de gloire face au Père, et à partir de là, une recréation de tout. C'est un petit peu comme pour le mystère de l'Assomption. Vous voyez bien, au moment de la dormition, la Vierge est dans un état de sainteté aux confins de la gloire, elle rentre dans la vision béatifique, et au moment où elle rentre dans la vision béatifique, Dieu recrée, à partir de la matière de ce corps de Marie, ce passage de la dormition à l'Assomption, recrée totalement ce corps de Marie, et le transforme totalement, comme on passe du néant à l'être. La sainteté glorieuse de Marie est entièrement recréée dans un univers totalement nouveau, c'est l'Assomption. Et pareil pour la fin du monde, c'est qu'on ressuscitera tous, qu'on sera totalement incorporé dans le corps mystique de Jésus, un corps rempli de gloire. Et que c'est le Verbe de Dieu face au Père qui sera là, recréation, à partir de la voix qui clame, voici la demeure de Dieu. Et on sera entièrement recréé, une recréation glorieuse. C'est quand même très extraordinaire. Puis il ajouta écrit, ces paroles sont certaines et vraies. C'est en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, celui qui a soif. Moi, je lui donnerai la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Alors l'un des sept anges, aux sept coupes, non, faut pas sauter, hein, j'allais sauter le verset 8, mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, donc les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, sept, bien entendu. Bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre, et c'est la seconde mort. C'est les antisacrements, ça, vous voyez ? C'est les antisacrements, la lâcheté, les renégats, la dépravation, l'assassinat, l'impureté, la sorcellerie, l'idolâtrie. Ouais, cet antisacrement. Cet anti-Dieu, et cet anti-Christ. Et cette signe de l'Antichrist. Alors l'un des sept anges aux sept coupes, remplis des sept derniers fléaux, sans vain me dire, viens que je te montre l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une montagne d'une grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit autant qu'une pierre des plus précieuses, comme du jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 messagers et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, à l'occident, 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait tenait un roseau gradué en or. La mesure de la Jérusalem céleste, c'est la charité. L'or présente la charité. On ne peut mesurer la Jérusalem qu'avec l'amour éternel, incréé, divin, incarné. Pour mesurer la ville avec ses portes et son rempart, cette ville dessine un carré, sa longueur égale sa largeur. Ça veut dire toute la création est dedans. Tout l'univers. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades. Ça veut dire tout le mystère de ceux qui vivent des sacrements est 12 000 stades. La longueur. Si tu pouvais comprendre la mesure de la Jérusalem céleste, 12 000 stades. Le carré et puis 12 000 stades. 12, je m'excuse pour la gymnastique des chiffres, mais... Pour ceux qui ont fait le pèlerinage sur l'Apocalypse, ils connaissent tout par cœur maintenant. Bon, 12, vous reconnaissez bien sûr les 7 sacrements et leurs fruits. Ça, c'est le mystère de l'Église. Les 12 apôtres sont là pour nous donner les 7 sacrements et leurs fruits. 5. L'Immaculée Conception. Enfin, leurs fruits. 5. Hein, ceci de la grâce. Il ne faut pas parler de sacrement, il faut lui faire donner tout son fruit. La grâce est gratuite. Le fruit, c'est gratuit. Les sacrements, c'est nécessaire et le fruit, c'est gratuit. C'est ultime, c'est surabondant. C'est glorieux, c'est éternel, quelque part. 5, 12. Et multiplié par 1000, 1000, c'est le symbolisme du mystère de l'Immaculée Conception. Donc, ceux qui vivent 12 de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont eu des sacrements et de la plénitude de grâce, irrigués entièrement dans la mesure de la plénitude de grâce de l'Immaculée Conception, c'est ça qu'on reconnaît dans le corps mystique de la Cité Sainte. Si on mesure avec la mesure d'or, c'est-à-dire avec la mesure du cœur sacré de Jésus, donc de la charité incarnée. C'est la traduction du symbolisme... Traduction littérale, le symbolisme de l'Apocalypse qui est là. Je vous le relis, vous allez voir, c'est plus facile. Celui qui me parlait tenait un roseau gradué en or pour mesurer la ville avec ses portes et son rempart. Cette ville dessine un carré, sa longueur égale sa largeur, il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades. C'est extraordinaire, ça, je trouve. Longueur, largeur et hauteur, ils sont égales. Donc c'est un cube. Puis, il en mesura le rempart, soit 144 coudées. Le messager mesurait d'après la mesure ordinaire. C'est extraordinaire. Mesure ordinaire. Ce rempart est construit en jaspe. Jaspe, c'est ce qui... C'est du minéral. C'est un peu transparent. Vous savez quelle est la couleur du jaspe? Hein? C'est une espèce de couleur un peu verte, là. Un peu pas tout à fait transparente, mais presque. Et le minéral, ça représente toujours les qualités de l'amour du Père, de la première personne de la très sainte Trinité. Donc, vous voyez, vous reconnaissez que les murailles qui font ce mystère de l'Immaculée Conception dans ceux qui sont incorporés dans ce mystère de l'Immaculée Conception grâce au sacrement et à leurs fruits sont enveloppés, si vous voulez, et structurés par l'attribut d'amour qui fait que le Père aime à la manière du Père à son Verbe. Donc, vous avez le point de vue de l'âme, l'Immaculée, le point de vue des sacrements, le point de vue du fruit des sacrements, le point de vue de l'Immaculée Conception, et avec le jaspe, la maternité divine de Marie, qui épouse la paternité incréée du Père. J'espère que ça ne vous paraît pas du chinois, parce que vous êtes tellement habitués à vivre ça, donc il n'y a pas de problème pour nous. On ne peut pas ne pas le voir, vous voyez, hein. Ce rempart est construit en jaspe. Et du coup, la ville, c'est de l'or fin comme du verre bien pur. C'est extraordinaire comme ça. Du coup, c'est tout en or. Tu connais? Comme du verre bien pur. Donc le jaspe, c'est le Père. Tout en or, c'est l'Esprit Saint. Comme du verre bien pur, c'est le Verbe. Le Verbe, c'est la transparence de Dieu. L'or, c'est l'amour du Père et du Fils. Et le jaspe, parce que c'est la source de tout amour. Incréé éternel. Ça veut dire que l'amour qui va irriguer tout de suite. Oh, c'est celui de. C'est pas un amour humain. C'est pas un amour humain complètement à son sommet. Non, 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 pas du tout. L'amour de Dieu, c'est l'amour dont Dieu s'est même personnellement qui est structuré notre cœur dans l'amour. Cette communication sera continuelle, puisque vous voyez bien, comme c'est vivant, c'est pas ça du jaspe alors, et au verre transparent, tout ça. Il y a en même temps une structure, puis en même temps une continuité, une communication continuelle. Une sponsalité glorieuse. Ce rempart est construit en jaspe, la ville, c'est de l'or fin, la finesse de l'amour au ciel, c'est extraordinaire, comme du verre bien pur. Les assises de son rempart, ah, les assises de l'amour, communiquant du Père, sont rehaussées de pierres. Génial ça. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysophase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. On pourrait rester toute l'année rien que là-dessus. Regardez dans un dictionnaire, faites des petites photos, et vous comprendrez un petit tour. On va comprendre tout de suite. C'est génial. Les 12 portes sont 12 perles. Ah, les portes. 12 perles. Et les perles, c'est les 8 qui fabriquent ces perles. Alors. C'est un animal qui produit un minéral. C'est extraordinaire de savoir qu'un animal enfante un minéral. On connaît le symbolisme de la perle, du coup, n'est-ce pas? Vous savez que, pour ceux qui ont visité la basilique de Conques, vous vous rappelez le symbolisme qu'il y avait, vous voyez bien, dès que c'est quelque chose qui relève de la vie. Parce que c'est un animal, par exemple, qui est symbolisé. C'est pas la même, c'est pas, ça ne s'adresse pas au même symbole que le point de vue donc, du minéral. Le minéral, c'est ce qui va caractériser ce qui est incréé, éternel.
divin, dans la très sainte Trinité, avant la création du monde, les qualités de l'amour incréé de Dieu, les attributs du Père, c'est toujours symbolisé par des minéraux. Dès que c'est des végétaux, ça va être des symboles sur les caractéristiques de la vie divine, de la grâce. La grâce sanctifiante, c'est la vie divine dans notre âme, ça sera toujours symbolisé par le végétal. Et dès qu'il s'agit de l'animal, ça va symboliser le point de vue de l'homme. De l'homme. L'animal est représenté par l'homme, c'est pour ça que vous avez des animaux dans l'Apocalypse. Hein. Donc il y a un animal qui enchante le minéral. C'est tout de même extraordinaire. C'est l'homme, c'est-à-dire le Messie, qui fabrique dans la beauté, la pureté, la splendeur et l'unité, par 12 portes, donc par toutes les plaies, les 12 aspects de la plaie du Sacré-Cœur, du cœur de Jésus. Il va enfanter pour nous l'amour incréé de Dieu. Donc finalement, le fruit, si je puis dire, des sacrements sortant du cœur sacré de Jésus, au terme de tout, c'est ça. C'est cet amour qui structure Dieu dans son amour et dans sa personne et qui fait qu'il est Dieu. Nous serons divinisés tout en étant totalement respectés. Et c'est si nous rentrons dans les plaies du Christ, les portes représentent toujours les plaies du Christ. Je suis la porte, c'est la croix glorieuse. Les 12 portes sont 12 perles, chaque porte formée d'une seule perle. Et la place de la ville est de l'or pur, transparent comme un verre. C'est génial. De temple, je n'en vis point en elle, c'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. Il n'y a aucune séparation. Et on est au plus intime de la gloire de Dieu. Elle peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et c'est l'agneau qui lui sert de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre viendront lui porter leur trésor. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit, et l'on vendra, et l'on viendra, pardon, lui porter les trésors et le faste des nations. Toute la création, c'est en fonction de la Jérusalem céleste. Rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire l'amour du Christ. Et l'amour du Christ est véhément, il nous aime tous. On est tous inscrits dans le cœur de Jésus. Jésus n'exclut de son amour personne. On est tous inscrits dans le livre de vie de l'amour, de l'agneau de Dieu, du cœur blessé de Jésus. Alors le messager nous montra. Vous savez, le messager, c'est Marie, hein, vous savez bien. C'est Marie qui, petit à petit, nous introduit dans tous ces mystères-là. Le messager nous montra le fleuve de vie, torrent de vie. Tout ça, c'est un côté un peu statique, vous voyez, minéral. Et maintenant, on va montrer l'aspect, donc l'aspect éternel, minéral, l'aspect incréé, l'aspect extraordinaire, l'aspect indépassable. Et en même temps, maintenant, on va voir l'aspect du fait que, bon, on pourrait dire, bon, une fois qu'on est là, on sera comme ça. Oh. Un peu rouge plus. Éternellement. Charmant. Charmant. Mais pas du tout. Quand ça, la lumière de la gloire sera une communication continuelle de plus en plus de toutes ces splendeurs. Continuelle. Vous savez, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est la description de la gloire ad intra. Intraverbum, quand on dit à l'intérieur du verbe, et puis on aura aussi toute la gloire ad extra, c'est-à-dire dans toutes les parties humaines de notre vie, tous nos aspects de corps, de désir, d'humanité, entièrement brûlés par la gloire, qui s'exprime dans une communication qui a besoin de s'exprimer dans la continuité, dans la, dans, dans l'approfondissement, etc. Cette humanité, on n'arrêtera pas d'être de plus en plus irrigué. La communication de la gloire sera continuelle. Elle est exprimée ici. Puis le messager me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, qui est fabriquée avec de l'amour, de l'or, je vous rappelle, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois les 7 dons du Saint-Esprit et les 7 fruits des sacrements. Continue au ciel. Au ciel, on ne vivra plus des sacrements, mais on vivra les 7 res, les fruits des sacrements. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner par les sacrements à vivre des fruits de chacun, chacune des fruits de ces sacrements. Comme ça, on s'habitue. Au ciel, on dort. On sera déjà habitué. Il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois. Une fois chaque mois, tout le temps, fructifie tout le temps. La communication continue, de plus en plus profonde, de plus en plus. Et leurs feuilles peuvent guérir les païens. Déjà, dans le régime du sacrement, ça guérit en un paganisme, dans le régime ailleurs. La de malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville. Et les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes, qui a dépêché son messager pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Eh bien, vois, ici, mon retour est proche. Heureux celui qui retient les paroles prophétiques de ce livre. Voilà la béatitude du dernier livre de la Bible. Heureux celui qui retient cela. C'est moi, Jean, celui que Dieu chérit, hein, Jean, Johannes. C'est moi, Jean, qui voyait et entendait tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais au pied du messager qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur, une servante comme toi. Et tes frères, les prophètes, et ceux qui retiennent les paroles de ce livre, c'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre. Voyez la délicatesse de l'Immaculé par rapport à Jean. Elle est tellement confondue avec la gloire de Dieu qu'il aurait, tentation d'adorer l'Immaculée, la reine. On n'adore pas la reine. Elle dit non, toi aussi tu seras avec moi la reine, l'épouse de l'agneau. C'est Dieu qu'il faut adorer. Mais tu dois communiquer ça. Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre parce que le temps approche, que le pécheur pêche encore. Et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Ça c'est magnifique. Heureux ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer de l'arbre de vie. Et pénétrer dans la cité par les portes, dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager annoncer chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin, l'esprit et l'époux. Disent que je viens à la Jérusalem céleste. Que celui qui écoute le vient de Jésus, de l'Esprit Saint et de l'Épouse, donc du Verbe. Que celui qui écoute dise, viens.
et que l'homme assoiffé s'approche, et que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement, je déclare moi quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, celui qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte écrit dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Oh oui, viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Tout se termine par « Viens, Seigneur Jésus » dans l'Apocalypse. Et enfin, les sacrements sont là pour faire que Jésus revienne. Ce qui montre bien que nous, ce que nous voulons faire ici, c'est qu'on veut voir comment sont structurés les sacrements et comment nous devons vivre du fruit des sacrements. Tous les fruits du sacrement ont un rapport avec le retour du Christ. C'est pour ça que c'est nous qui devons regarder ça. D'ailleurs, on l'avait déjà vu plus ou moins pour chacun des sacrements, une fois ou l'autre. Et donc, c'est beau de regarder dans l'Apocalypse cet aspect que la Jérusalem céleste, c'est le fruit des sacrements, et que les fruits des sacrements permettent l'advenue de la Jérusalem céleste, de la cité sainte. Voilà. Bon, eh bien, vous voyez, nous avons un beau programme pour l'année. Vous voulez bien, nous allons remercier Jésus, remercier l'Immaculé, remercier l'Esprit Saint, remercier le Père d'être déjà totalement donné dans notre âme, dans notre corps, dans notre cœur.